France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Comment lutter contre les violences et incivilités routières? 3432 personnes décédées sur les routes en 2024 dans notre pays. Les 18-34 ans sont les plus exposés. Ils représentent 30% des tués, 33% des blessés graves et 37% des présumés responsables d'accidents mortels. Les 18-24 ans restent les plus à risque d'accidents graves. Les hommes dominent ce tableau macabre. Avec plus des trois quarts des tués et blessés graves. Alors comment réduire drastiquement le taux d'accident en France? Comment protéger les plus vulnérables, piétons, cyclistes, trottinettistes? Nous verrons comment pacifier les rapports entre tous les usagers de la route. Et puis comment réduire de façon significative les comportements dangereux et les incivilités? Trois quarts des conducteurs par exemple continuent à utiliser leur smartphone au volant avec évidemment une attention en chute libre. Racontez-nous les violences et incivilités routières que vous constatez tous les jours. Standard et WhatsApp ouvert au 01 45 24 7000, sans oublier l'appli Radio France. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rebbi.
Un automobiliste qui écrase un cycliste pour un rendez-vous chez l'ophtalmo. Des conducteurs déchaînés qui en tabassent d'autres.
C'est des menaces, je te fracasse la tête au milieu.
Ah oui, tu me fracasses la tête.
À Paris, il suffit de se mettre à un carrefour pour constater que les usagers de la route ont du mal à cohabiter. Voitures garées sur la piste cyclable. Feux rouges grillés. Priorités non respectées. Chacun se rejette la faute.
Ils roulent n'importe comment, ils grillent les feux, ils essayent de se faufiler, ils forcent. Et des fois ça finit mal parce qu'ils abîment les voitures, ils touchent, ils s'arrêtent pas.
Comme je suis un petit peu nerveux, ça peut pas bien se passer assez rapidement, ouais. Ah ouais, parce qu'on se fait insulter parce que les gens voient pas qu'il y a une file vélo à contresens. En fait, c'est pas bien foutu, quoi.
Des accidents parfois mortels. La semaine dernière, une cycliste est tuée par un camion à ce carrefour, au centre-ville de Tours. En septembre, un autre cycliste meurt, percuté par une Lamborghini à Avignon.
Montage signé Claire Destacan, issu de reportages récents diffusés sur France 2, un sombre tableau des violences et incivilités routières dans notre pays. Bonjour Florence Guillaume.
Bonjour.
Vous êtes déléguée interministérielle à la sécurité routière. Expliquez-nous en quelques mots votre fonction et quelles sont les principales missions de la sécurité routière.
Alors mes fonctions en tant que déléguée, c'est d'élaborer, d'animer, de coordonner la politique publique de sécurité routière, qui est une politique publique très vaste en fait, parce qu'on a à la fois les questions d'éducation, les questions de prévention, de perception du risque, et également les questions de réglementation, législation, qu'elle soit française, européenne et même internationale, hein, avec l'ONU. Et puis bien sûr toute la question du contrôle. Donc c'est voilà, et j'ajoute à tout ça, un point extrêmement important, l'accompagnement des victimes, car c'est aussi depuis très longtemps les victimes qui poussent la politique publique et qui nous font prendre conscience, qui vont prendre conscience au-delà des messages forts qu'on peut délivrer, la réalité en fait des visages derrière les nombres et les chiffres que vous avez évoqués.
Bonjour Isabelle Aleno.
Bonjour.
Vous êtes la mère d'Antoine Aleno, victime d'un homicide routier. Vous avez cofondé l'association Antoine Aleno. Quelle est la mission de votre association, de l'association Antoine Aleno?
Alors notre mission principale est l'accompagnement des familles, parce qu'on s'est vite rendu compte quand c'est arrivé pour notre fils qu'on était très très seul quand un drame pareil survenait. Donc notre mission principale est d'accompagner donc ces familles. Nous avons constitué toute une équipe, nous avons assistantes sociales, travailleurs sociaux qui font déjà un premier état des lieux de la situation, qui pallient aux urgences. Nous avons une avocate bénévole qui répond sur toute question judiciaire, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions qui surgissent à ce moment-là. Nous avons également toute une équipe de thérapeutes, puisque nous accompagnons donc ces familles dans un accompagnement psychologique. Nous avons... nous assumons en fait ces frais de séance de psy, de thérapeute.
Et vous avez poussé pour qu'une infraction d'homicide routier vienne dans notre pays prendre sa place dans notre droit français.
Oui, tout à fait. Nous, c'est un combat qu'on mène depuis presque 3 ans. Donc, on est plutôt confiant pour les jours qui viennent et pour la suite de cette proposition de loi.
Parce que le texte est en seconde lecture.
En seconde lecture, donc
au Sénat début juillet.
Voilà, puisqu'on a déjà, il y a eu un vote à l'Assemblée nationale il y a à peu près une quinzaine de jours. La proposition de loi a été adoptée, donc on sera le 1er juillet prochain au Sénat pour cette deuxième lecture. Donc,
Et ça change tout de qualifier une infraction d'homicide routier plutôt que d'homicide involontaire.
Oui,
ça change tout.
Oui, ça change tout. Alors, ce n'est pas qu'une question de sémantique, hein, mais c'est vrai que le terme involontaire est quand même insupportable. Moi, j'ai encore le souvenir de quand on avait été reçu par la juge d'instruction et quand j'ai entendu que tout ce qui s'était passé, enfin toutes les circonstances qui constituaient en fait pourquoi Antoine n'était plus parmi nous aujourd'hui et était qualifié d'involontaire, c'est quelque chose qui m'a particulièrement choquée et c'est le cas de toutes les familles avec lesquelles on est en contact. Le mot involontaire, c'est terrible. Donc, il y avait vraiment un manque dans notre système législatif. Donc, il fallait absolument que la société évolue et il est normal que la loi suive derrière.
Rappelez-nous les circonstances de la mort de votre fils Antoine.
Alors Antoine, il était cuisinier, il rentrait après son service, il était un petit peu plus de 23 heures, il était arrêté à un feu, il attendait simplement que le feu passe au vert. Quelques minutes avant, il y avait un individu qui était alcoolisé, qui venait de voler une voiture et qui s'est échappé de l'endroit où il venait de commettre son larcin. Et il roulait à plus de 110 km à l'heure en plein Paris. Et malheureusement, Antoine était sur son chemin, donc il a fallu qu'il passe. Donc,
Il s'agit effectivement d'un homicide routier,
absolument.
Et non pas d'un homicide involontaire.
Non.
Bonjour Bernadette Moreau.
Bonjour.
Vous êtes déléguée générale de la Fondation Vinci Autoroutes et vous publiez le 15e baromètre de la conduite responsable. On reviendra en détail sur ce baromètre, mais on assiste à un peu moins d'incivilité, de comportement dangereux déclaré.
Alors c'est un baromètre qui est réalisé par Ipsos depuis 15 ans pour la Fondation Vinci Autoroutes.
Avec un gros panel. Hein.
Un gros panel, puisque c'est un baromètre européen, 12 400 personnes, dont 2000 en France. Et l'objectif de ce baromètre, c'est de faire un état des lieux des comportements déclarés par les automobilistes sur la route. Et cette année, pour la première année depuis 15 ans, on a constaté dans la déclaration des automobilistes un léger mieux. C'est vrai au niveau européen, c'est vrai aussi en France, avec une très légère baisse des incivilités et des comportements dangereux. Alors bien sûr, on l'a noté, c'est bien, c'est positif, mais il faut que ça se confirme.
Il y a encore beaucoup de travail, Bernadette Moreau, et on y reviendra dans cette émission. Bonjour Jean-Pascal Assailly.
Bonjour.
Indispensable expert dans ce type d'émission, vous êtes psychologue et chercheur émérite à l'université Gustave Eiffel à Versailles, et vous aviez publié en 2018 un livre très intéressant, Homo Automobilis, ou l'humanité routière. Votre sentiment sur cette avancée des mentalités, notamment sur le fait que une infraction d'homicide routier apparaisse dans notre droit français?
Oui,
alors, le regard du psychologue.
Voilà, parce que je ne suis pas juriste, hein, donc il y a des éléments sur lesquels je ne serais pas compétent, mais en fait, moi, ce que je peux dire, et c'est en ça que je soutiens vraiment, mais totalement le travail de l'association, c'est tout simplement, par exemple, parce que j'ai essayé un jour de comprendre pourquoi les deux champions du monde de la sécurité routière, c'est soit les Suédois, soit les Anglais, selon les années. Bon. Et donc, j'ai toujours essayé de comprendre pourquoi ils faisaient tellement mieux que nous, hein, et notamment, bien sûr, sur les questions soit de comportement routier, comme alcool, vitesse, etc., mais aussi sur la question de la citoyenneté et du respect d'autrui. Bon. Et effectivement, ce qu'on voit bien, c'est une espèce de précocité, si vous voulez, historique. C'est que, par exemple, les Suédois ont développé, dans les années 20, une école de philosophie juridique qui posait que la loi peut être éducative par une fusée à 3 étages. La loi, dans un premier temps, elle sanctionne. Donc ça, c'est la partie contrôle-sanction de la sécurité routière indispensable. Voilà. Malheureusement, peut-être. Mais ce que les Suédois ont pigé bien avant nous, c'est que dans un deuxième temps, la loi s'intériorise dans le groupe, dans une norme sociale. Ce n'est pas bien de rouler ivre, ce n'est pas bien de griller le feu rouge, voilà. Et le troisième étage de la fusée, ça s'intériorise encore plus dans une norme individuelle, même si c'était permis je ne le ferai pas. Mmh. Vous voyez, pour le viol ou le meurtre, on n'a pas besoin, on n'a plus besoin de mettre un képi, voilà. Et bien, si vous voulez, donc ça, c'est, alors c'est des phénomènes qui peuvent prendre quand même 20 ou 30 ans, si vous voulez. Mais c'est cette idée qu'il faut, il faut passer par la loi. Voilà, il faut, pour avoir cette responsabilisation de la population française qui a été trop longtemps laxiste, sur tous ces comportements extrêmement dangereux, en disant c'est un accident, ben non, c'est pas un accident. Voilà, donc il faut passer par cette première étape.
Pourquoi c'est pas un accident ?
Parce que, effectivement, je pense que ça fait maintenant 50 ans que la sécurité routière communique quand même suffisamment sur le rôle de la vitesse, de l'alcool, du cannabis, du téléphone. Personne ne peut dire « je ne savais pas ».
Oui. Voilà. Florence Guillaume.
Non, c'est très juste. Hein. Moi, on a en France déjà, en termes de loi et de réglementation, pour le coup, on est un des pays les mieux dotés. Donc, c'est vraiment s'intéresser aujourd'hui à ce deuxième et ce troisième étage de la fusée, qui est effectivement la norme sociale. Je dirais même finalement, qui va aussi de pair avec, enfin, la question du contrôle social, hein, tout simplement, et finalement la perte du contrôle social dans la vie quotidienne, on la retrouve sur la route. Et c'est ça la difficulté. Aujourd'hui, et la norme individuelle sur laquelle on travaille également beaucoup, c'est-à-dire que la règle ne soit plus subie, perçue comme une contrainte, mais qu'elle soit choisie. C'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, bien évidemment, j'attache mon enfant, non pas parce que je risque de prendre une amende, mais parce que c'est extrêmement important et que si je freine, un accident qui pourrait être que matériel pourrait devenir corporel ou mortel.
Et c'est d'ailleurs l'une de vos campagnes récentes, le fait que l'on attache systématiquement son enfant à l'arrière.
Et qu'on ne négocie pas avec la sécurité de son enfant, même s'il n'a pas envie d'être attaché. Il n'y a pas de négociation possible.
Bernadette Moreau.
Oui, tout à fait. En fait, on se rend compte qu'un certain nombre de conducteurs prennent des libertés avec la règle, quelquefois par méconnaissance ou négligence, sans comprendre le sens de la règle. Et ça, je pense que c'est un élément très important et qu'on fait tous autour de la table, c'est d'informer pour donner les raisons pour lesquelles la règle existe, pourquoi le code de la route est présent, c'est pour organiser la circulation entre les différents usagers de la route et pour les protéger. Et on a trop tendance à oublier cette raison d'être du code de la route qu'il faut faire passer pour chacune des règles, pour l'attachement des enfants, mais pour toutes les règles.
Vous parlez de méconnaissance, mais on a tous fait l'expérience, et moi qui suis essentiellement un piéton, je n'ai pas mon permis de conduire, vous traversez ces rouges et vous avez des automobilistes qui veulent quand même passer, qui veulent quand même forcer le passage, qui savent que vous traversez, qu'il y a des enfants qui traversent en même temps que vous, et qui veulent quand même passer, et qui parfois passent, et qui vous obligent à courir pour ne pas justement vous faire écraser. Jean-Pascal Assailly, c'est pas simplement de la méconnaissance.
Non, mais bien sûr.
Règle.
Non, bien sûr. Actuellement, dans la difficulté de la circulation dans les grandes villes comme Paris, on voit bien qu'effectivement, il y a des différents niveaux, si vous voulez. Il y a ce dont on vient de parler, c'est le niveau très animal. C'est le territoire, c'est l'espace. Mmh. C'est que, on sait bien que plus il y a de congestion du trafic, plus il y a de nervosité et de stress, et plus il y a d'agressivité. C'est des corrélations, si vous voulez. Mais les animaux, c'est pareil. Vous mettez 10 rats dans un endroit, ça se passe bien. Vous en mettez 15, arrivent les phénomènes de violence. Voilà, donc ça, bon. Après, il y a encore d'autres choses à dire, bien sûr, sur le sujet. Mais c'est surtout, moi, ce qui me frappe, si vous voulez, maintenant, quand on roule dans les grandes villes, c'est qu'on a énormément diversifié les modes d'usage de la route. Quand j'étais petit, il y avait les piétons et les voitures, voilà. Vous voyez, maintenant, ce chaos-là, un peu de trottinettes électriques, d'objets roulants non identifiés, etc., c'est qu'en fait, les gens ne se comprennent pas. Ouais. C'est qu'il y en a un qui parle chinois et l'autre qui parle français. C'est qu'on voit bien, ils ne comprennent pas les comportements des autres, leur trajectoire, leur vitesse. Hein, et comment dire, l'automobiliste va vous dire si, je l'ai vu, mais alors j'aurais jamais imaginé qu'il allait passer par là.
Bernadette Moreau.
Oui, c'est vrai qu'il y a une incompréhension flagrante entre les différents usagers de la route. Je reviendrai sur le chiffre qui a été donné, enfin les éléments qui ont été donnés sur la Suède. Ce qu'on constate au travers de notre baromètre, puisque la Suède fait partie de l'échantillon européen, comme les Pays-Bas, on voit que dans ces deux pays, les incivilités sont les plus basses déclarées par les conducteurs et comme par hasard, c'est là aussi que les résultats de sécurité routière sont les meilleurs. Donc il y a vraiment un lien très très fort entre ces deux aspects.
Il y a une corrélation entre les incivilités et les accidents et les comportements dangereux sur la route. Bonjour Jean-Laurent Casselli.
Bonjour Ali.
Fondateur de Maison Casselli, cabinet de décryptage des tendances de la société, co-auteur de La France sous nos yeux. Le menu de votre chronique, les Français, mode d'emploi.
Alors pour la dernière chronique de l'année, je vais parler d'une ville que je connais bien qui s'appelle La Ciotat, qui est très à la mode.
Vous êtes fait plaisir, vous.
Je me suis vraiment lâché, fait plaisir pour la dernière. Et je vais citer l'exemple de La Ciotat pour parler d'un mécanisme un peu plus universel qu'on appelle parfois la lutte des places, pour parler de l'obsession des Français pour l'immobilier et le cadre de vie.
Voilà. À tout à l'heure. Dans un instant, vous verrez quel est le niveau d'incivilité, de comportement dangereux sur la route, insultes, injures, utilisation du smartphone au volant ou en deux roues, distance de sécurité.
France Inter, grand bien vous fasse, Ali Rebbi.
Comment lutter efficacement contre les violences routières? C'est notre thème ce matin, juste avant les grandes vacances. Un sujet essentiel, Florence Guillaume, déléguée interministérielle à la sécurité routière. Vous me disiez hors antenne que vous vouliez absolument parler d'un sujet essentiel, c'est le partage de la route.
C'est devenu le partage de la route est devenu en effet un enjeu majeur. Il faut déjà savoir que depuis le Covid, les automobilistes représentent moins de la moitié des victimes sur les routes. On a aujourd'hui une route qui est beaucoup plus partagée et il faut vraiment sortir de l'idée que la route c'est pour la voiture. Donc aujourd'hui sur la route, on a la difficulté c'est qu'on a des usagers qui vont rouler avec des masses différentes, avec des vitesses différentes et avec des protections différentes. Et il faut bien avoir en tête qu'on a d'un côté des usagers motorisés qui vont être avec une carrosserie et d'autres sans. Et là, on est sur l'usager vulnérable. 48% d'automobilistes aujourd'hui tués, eh ben on a une augmentation des usagers vulnérables. Et c'est ça qui est important. Donc c'est avoir conscience que cette route, elle se partage. La difficulté, c'est que dès qu'on parle de partage, on retombe, et je rebondis sur ce que disait Jean-Pascal, sur la question du rapport de force
du territoire.
Et sur la question du territoire.
Et la lutte des places.
La lutte des places, on est tout à fait ça. Il est vraiment temps d'arriver à apaiser les choses, à retrouver plus de sérénité sur les routes. C'est pas une question de... tout le monde va y arriver. De toute façon, quand il y a un bouchon, le râler ne fait... Alors, il y a une différence par contre entre râler, ce qui est humain, et passer à l'acte. Ouais. Et là, c'est la question de la maîtrise de l'agressivité, ouais. Mais finalement, comme dans la vie, hors sur la route. C'est-à-dire, comment on maîtrise son agressivité.
Jean-Pascal Assailly, je rappelle que vous êtes psychologue et chercheur émérite à l'université Gustave Eiffel à Versailles.
Oui, non mais bien sûr, de toute façon, la route reflète un peu la société aussi. Vous voyez bien que le débat qu'on a là, vous feriez un truc sur l'émission sur les violences conjugales ou sur les violences à l'école, les gens vous diraient des choses très semblables en fait. Hein. C'est notre société, elle est confrontée quand même à une montée de la violence et donc elle se déverse sur la route aussi, bien sûr. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas quand même impuissant pour lutter contre ça. On a une série d'actions possibles dont on va pouvoir parler pour... Parce que disons quand même que, bien sûr, c'est encore beaucoup trop, 3400 tués, mais il y en avait 17 000 il y a 50 ans.
18 000 en 1972, voilà, 18 000 décès sur la route.
Bon, voilà. Donc, si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, je pense que c'est pas tout à fait bien connu, c'est l'aspect systémique de la sécurité routière. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'il y a des groupes qui sont un peu plus à risque, comme les 18-25, et on sait exactement pourquoi. Bon, mais il n'empêche que, globalement, en fait, on est tous dans le même bateau, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a un parallélisme des courbes quand on passe de 18 000 tués à 3 000, tout le monde a progressé, y compris les jeunes. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ne sont pas un obstacle à la répression. Les gens se disent, la répression ne marche pas chez les jeunes. Ben si, elle marche très bien. Je veux dire, les radars, ils ont fait les mêmes effets sur un conducteur de 20 ans qu'un conducteur de 50. Voilà. Donc, si vous voulez, on voit bien que les enfants de 3 ans pourraient être considérés comme des gens peu concernés, parce que ce n'est pas des grands infractionnistes, mais si, parce qu'ils sont concernés, parce qu'il y aura moins de chauffards qui vont les écraser. Donc, on a tous progressé ensemble, et puis on est d'accord que les 3400 tués, ce n'est pas encore c'est pas un niveau qui est...
Florence Guillaume.
Oui, et en plus, ces deux dernières années, malgré tout, étaient quand même historiquement les plus basses. Mais on est encore à des seuils qui sont importants, même sinon on a énormément diminué. Question, c'est dans les accidents qui restent, parfois, comme ça diminue moins vite aujourd'hui, et pour cause, on a déjà beaucoup diminué, les gens parfois me disent, c'est un plateau, comme si c'était un espèce de seuil sur lequel on ne pourrait pas descendre. Mais franchement, quand on regarde les accidents, vous avez encore un accident mortel sur 3 avec de la vitesse, 1 sur 4 avec de l'alcool, 1 sur 5 avec des stupes. Donc c'est absolument pas de la fatalité, oui. Et on peut encore évidemment agir sur ces facteurs d'accident.
Isabelle Aleno de l'association Antoine Aleno.
Oui, je pense que c'est pour ça, que, d'où l'importance de la proposition de loi sur l'homicide routier, c'est aussi prendre conscience de tous les comportements à risque sur la route. Mmh. Donc on a parlé de l'alcool, des stupéfiants, de la vitesse, enfin toutes les choses qui sont reprises dans la proposition de loi, et c'est vraiment une réelle prise de conscience qui doit se faire rapidement pour qu'on arrive enfin à faire baisser ces chiffres.
Bernadette Moreau, déléguée générale de la Fondation Vinci Autoroute.
Oui, en fait, on voit effectivement qu'il y a des causes majeures d'accidents mortels, l'alcool, la drogue, les médicaments, la vitesse. Mais on voit aussi que ce côté systémique, il est extrêmement important parce que finalement, dans notre baromètre, on le voit chaque année, tout le monde pense qu'il est un très bon conducteur. Oui. Et ce sont les autres qui conduisent mal. Donc il y a vraiment une nécessité de remise en cause parce que quand on regarde tous ces chiffres, on s'aperçoit que finalement, tout le monde est infractionniste. Et on va pouvoir travailler aussi sur la question de l'inattention et de la somnolence, l'usage du téléphone au volant qui a explosé. Cette année, ça s'est un peu calmé, mais ça a vraiment explosé. Et tout ça, ça fait des façons de conduire qui font que les gens ne sont pas concentrés sur leur conduite.
Le regard de Jean-Laurent Casselli.
Regard du conducteur Jean-Laurent Casselli. Quand j'y vivais à Marseille il y a quelques années, que je conduisais, j'ai été frappé de découvrir l'amaxophobie, qui est la peur, l'angoisse de conduire. J'ai lu un article dans La Provence qui expliquait qu'il y avait un psychiatre de la Conception à Marseille qui recevait des patients qui étaient tellement angoissés de conduire qu'ils étaient paralysés, qu'ils renonçaient à la conduite. Et ça concernait pas mal de gens. Ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est que dans les témoignages, les gens faisaient remonter le fait qu'ils avaient la peur de perdre complètement le contrôle. Voilà, le côté complètement irrationnel de la conduite de celui qui est en face ou à côté a un aspect aujourd'hui paralysant chez beaucoup de conducteurs.
Votre regard, Jean-Pascal Assailly ?
Oui, bien sûr, ça on le voit, la question du stress, elle est assez... On a un bon poste d'observation, si vous voulez, des comportements routiers, c'est ces fameux stages de récupération de points où vous avez pendant 2 jours des gens qui viennent essayer d'expliquer leur comportement sur la route, voilà. Et c'est vrai que la question du stress revient très souvent, voilà. C'est-à-dire que entre la précarité du travail et la précarité du couple, beaucoup de conducteurs français vivent des niveaux de stress très 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 importants.
Il ne faut pas négliger cette question du stress parce qu'elle peut conduire à des comportements dangereux.
Bien sûr, le stress, on sait bien, est mauvais pour chacun.
De prise d'alcool, par exemple, de stupéfiants pour justement réduire ce stress.
Bien sûr.
Donc c'est un cercle vicieux.
Je voudrais peut-être juste mentionner un facteur qui complémente ce qu'on a dit depuis le début de l'émission, qui est peut-être pas bien connu, c'est la question de la transmission intergénérationnelle des comportements. C'est la question de l'exemplarité, si vous voulez. C'est que pour les gens, la sécurité routière, c'est le travail des gendarmes, des juges, des éducateurs. Bon, en fait, si vous voulez, il y a des pays où c'est votre assurance qui connaît toutes les carrières routières de vous, de votre sœur, de votre père, de votre mère, etc., dans le même ordinateur. Bon, et on voit bien qu'il y a une forte reproduction intergénérationnelle de l'accident, de l'infraction. Le style de conduite, pendant 18 ans, vous n'avez pas le droit de conduire pendant 18 ans, mais sur la banquette arrière, on le sait bien, les enfants, c'est vraiment des magnétoscopes de tout ce que leur père ou leur mère fait au volant. Oui. Voilà. Donc, ça,
de leur père notamment, parce que il faut le dire, ce sont les hommes qui sont les plus exposés au décès et qui sont, hélas, les plus souvent présumés responsables d'accidents mortels.
Bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Bien sûr, et c'est pour ça que, si vous voulez...
93% avec quand il y a de l'alcool.
Bien sûr.
Combien 93% présumés responsables avec les accidents...
Comment on explique, justement, cette surmortalité masculine, cette surresponsabilité masculine dans l'accidentologie comment ça s'explique, Jean-Pascal Assailly?
Ah, vous savez que c'est... La
différence... Sans être caricatural ni schématique.
Voilà, la différence homme-femme, on pourrait y passer toute l'émission, donc il y aura encore d'autres choses aussi intéressantes à dire. La différence homme-femme, si vous voulez, c'est la différence la plus fondamentale sur la route. L'âge, le métier ne crée pas une telle différence. La seule chose qui compte en sécurité routière, c'est le sexe du conducteur qui est au volant, en fait. Bon. Vous savez bien, il y a des gens qui vont porter plus sur le biologique, sur l'influence de la testostérone, sur le fait qu'un homme et une femme, ça c'est pas la même chose, le logiciel. Bon, il y a des gens, vous savez bien, qui vont être beaucoup plus sur les stéréotypes de sexe, que les petits garçons, on leur tolère beaucoup plus les prises de risque et le non-respect des règles, alors qu'avec les filles, on va être un peu plus... Voilà. Bon, donc ça, c'est les gens qui croient plutôt au psycho-éducatif. Et puis après, il y a un problème fondamental qui est plus anthropologique, c'est la question, alors là, on y revient, c'est du souci de l'autre, quoi. C'est que... Et là, c'est très inscrit, ça, par contre. Hein. Pourquoi les organismes féminins, même animaux hein, et humains, ont plus le souci de l'autre avec le rapport à le fait d'avoir fait des enfants. Et, alors, et donc, ça va jouer... Enfin, vous voyez bien que tous les métiers du souci de l'autre sont féminins. Mmh. Donc, sur la route, un homme va vous dire « Je respecte la règle parce que je ne veux pas être puni, je ne veux pas payer une amende. » Mais une femme vous dira bah, « Moi, quand je respecte la règle, c'est surtout pour ne pas risquer de blesser autrui. »
Et ça, ce sont les enquêtes qui le disent.
Hein. Ah oui, bien sûr.
Ouais. Laurence Guillaume.
C'est vraiment, on a quelque chose qui est quand même très... Les chiffres sont têtus, déjà. Et c'est vrai que tout se recoupe dans ce sens. Il y a vraiment une question autour d'un côté de la prise de risque et de l'autre côté, finalement, d'une prudence entre guillemets un peu plus naturelle, évidemment sans être schématique, mais c'est vrai que la question est d'ailleurs parfois, paradoxalement, c'est que cette prudence est perçue comme un manque d'assurance. Et c'est le cas pour l'épreuve du permis de conduire où parfois les femmes se font recaler parce qu'elles n'ont pas une conduite assez dynamique. Donc on est en train de travailler sur ça et sur ces biais de genre, c'est très important parce que je trouve ça quand même dommage de ne pas valoriser justement la prudence et que la prudence soit, puisse être perçue comme un manque d'assurance ou un manque de réflexe potentiel. Donc il est temps d'aller sur un peu plus de conduite apaisée et non pas de conduite dynamique.
C'est très intéressant ce que vous dites sur cette réhabilitation de la prudence, Bernadette Moreau.
Oui, c'est vrai, dans nos chiffres, on voit bien que les comportements féminins, enfin les comportements des femmes sont beaucoup plus modérés, plus responsables. Alors il y a un point quand même sur lequel on retrouve les femmes au même niveau que les hommes, peut-être même un peu au-dessus, c'est sur l'usage du téléphone au volant. Là, vraiment, je pense que la conscience du risque n'est pas présente, ou en tout cas, l'appel du téléphone fait qu'on a vraiment du mal à se maîtriser.
Ça, c'est un vrai sujet qui augmente quand même hein, dans la part de risque, et qui en plus, je trouve que bien souvent, il y a quand même une forme de déni. Mmh. C'est-à-dire que les gens n'ont pas conscience, c'est pas seulement le téléphone, c'est vraiment le smartphone. Mmh. Et les gens n'ont pas conscience que quand ils sont en train de regarder leur smartphone, c'est pas une nanoseconde, mais parfois 2-3 secondes. Et en 2-3 secondes, quand vous êtes à 130 km/h, eh ben, vous allez parcourir vite plusieurs dizaines, centaines de mètres.
Isabelle Aleno.
Oui, moi je voulais juste faire une petite aparté. On a été présent, l'association a eu la chance d'être présent sur le salon Vivatech là, pendant 4 jours la semaine dernière. Et on avait deux simulateurs. Moi, personnellement, j'ai mon permis depuis 30 ans. J'estime que je suis assez prudente. Enfin, j'ai pas eu d'accident. Enfin, voilà, je fais attention. J'essaye d'être responsable. Je me suis prêtée au jeu du simulateur. Donc, la personne qui présentait ce simulateur m'a fait la partie distracteur. Donc, du coup, il m'a demandé de répondre. Il y avait un SMS qui arrivait, du coup, sur l'écran du simulateur. Et il m'a dit « Je veux que vous répondiez ». J'ai répondu, j'ai eu un accident. Oui.
Dans le simulateur.
Dans le simulateur.
Jean-Pascal Assailly, il faut peut-être rappeler ce qui se passe quand on prend son téléphone, qu'on répond, qu'on le regarde, ou bien en Bluetooth quand on interagit avec son téléphone. Qu'est-ce qui se passe du point de vue du comportement routier et de l'attention sur ce qui se passe sur la route ?
Ah bah oui, bien sûr, là c'est clair que les gens qui textent, il y a même des gens qui textent au volant. Bon là je veux dire c'est vraiment un comportement là vraiment très très déviant quoi. Non, je voulais juste redire un petit mot mais sur la question de la différence homme-femme peut-être juste pour terminer parce qu'il y a un aspect, si les femmes sont le modèle, on va pas transformer les hommes en femmes de toute façon. Par contre, on a un travail à faire sur la question de la masculinité toxique quand même, parce que ça rejoint des choses, vous savez, qu'on a vu aussi dans d'autres domaines de la société. C'est quand on est un garçon français entre 15 et 20 ans, le but, c'est pas de devenir une femme, que je sache. Bon. Mais quand même, ça veut dire quoi être un homme dans la France de 2025? Est-ce que c'est de dire, moi, je me permets les infractions parce que je suis tellement meilleur pilote que les femmes? C'est ce que Florence Guillaume venait de dire. Voilà, c'est ça. Hein. Donc ça, bon. Mais c'est pareil, cette espèce de confiance excessive hein, qu'ont beaucoup d'hommes, il va falloir déconstruire cette chose-là. Mmh. Voilà, parce que c'est ça qui les tue sur la route au final.
Et vous m'avez pas répondu sur l'usage du téléphone et l'impact sur la tension routière et la survenue d'accidents. Exemple avec Isabelle Aleno qui est dans un simulateur, qui répond à un SMS et qui a un accident dans ce simulateur.
Bien sûr, oui. On a été, c'est vrai, peut-être un peu laxiste au début sur le téléphone, parce que d'abord, effectivement, pour une fois, les femmes se comportent aussi mal que les hommes, ce qui est très rare. Et puis, ça semblait moins grave que l'alcool ou la vitesse. Puis d'abord, au début, pour constituer une infraction, il faut quand même qu'il y ait un travail juridique. Non, mais c'est, en fait, si vous voulez, c'est, après, c'est plutôt de la psycho-expérimentale. Mmh. Effectivement, on met les gens en simulateur ou en sur-circuit. Bah, je veux dire, le téléphone, ça abîme complètement votre comédie. Et la vision tunnel, vous ne voyez plus rien de ce qui est sur les côtés. Enfin, bon, on peut, je sais pas, Florence Guillaume, vous avez encore d'autres effets du téléphone. Non, c'est surtout la question de la télévision.
La question, c'est de ne pas utiliser smartphone.
Il y a un chiffre fort pour les entreprises. Parce qu'on travaille beaucoup avec les entreprises sur le risque routier professionnel, dans les accidents de la route, donc ils peuvent être ou domicile de travail ou en mission. Les accidents de travail en mission professionnelle, un tiers des accidents mortels est lié à l'inattention, donc au téléphone. Ouais. Donc il y a un vrai besoin pour les entreprises de comprendre en fait le risque du téléphone et surtout aussi le risque, la nécessité pour eux d'avoir un message très clair envers leurs collaborateurs.
Il suffit de quelques secondes d'inattention en fait pour malheureusement connaître le pire.
Et si en plus vous êtes sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants, évidemment, c'est parce qu'il faut rappeler, on l'a dit tout à l'heure, les deux principaux facteurs d'accidents mortels, c'est évidemment l'alcool et la vitesse. Hein. Vous confirmez, Florence Guillaume?
Oui, alcool, vitesse, stupéfiants et puis le téléphone qui monte. Et qui est effectivement, avec la particularité du téléphone, je crois qu'on l'a bien compris, qui est une petite forme de déni quand même. Et une petite forme de déni parce qu'on a l'impression que tout le monde le fait. Ouais. Et voilà, donc si tout le monde le fait, bah, c'est un peu moins grave. Donc il faut que collectivement, on se remette un petit peu en ordre de bataille.
Ouais,
sur le téléphone, je voudrais ajouter quelque chose, c'est que souvent, enfin vous l'avez certainement entendu, les gens disent, oui mais quand je suis au téléphone, quel que soit le mode d'utilisation du téléphone, c'est comme quand je parle à mon voisin. Mon passager, ça n'a rien à voir. Le passager voit la route, et il va marquer des pauses, parce que ça sera nécessaire, il verra ce qui se passe. Alors que quand on est au téléphone, on est absorbé par la conversation et l'interlocuteur ne voit pas la route. Et ça, c'est très 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 différent. Nous, on a pu le démontrer avec des études menées par un laboratoire de Strasbourg qui montrait qu'effectivement, ça n'est pas du tout la même chose. Et ça, je pense qu'il faut vraiment le dire, déconstruire cette idée reçue.
Oui. Allez, il est 10h40, l'heure de retrouver les Français mode d'emploi de Jean-Laurent Casselli.
Regardez Salomon, regardez.
Combien vous fasse.
C'est net, c'est silencieux, y a pas de fumée. C'est en français.
Ali Rebéi.
Tu peux pas faire la queue comme tout le monde.
Abruti, crétin, cocu.
Sur France Inter.
C'est ça les Français.
Alors Jean-Laurent Casselli, ce matin, vous nous parlez d'une destination qui vous tient à cœur. Vous vous êtes fait plaisir ce matin.
Oui, je vais vous raconter une anecdote, Ali, parce que tout est parti de cette anecdote. Il y a quelques semaines, je discute avec le dirigeant d'une grande entreprise française qui m'apprend qu'il habite depuis peu à La Ciotat. Et puis quelques jours plus tard, sur un plateau télé, c'est un éditorialiste assis en face de moi qui m'explique qu'il a lui aussi une maison là-bas. Alors ça fait un moment qu'il y a une mode, une hype autour de cette ancienne cité ouvrière de 36 000 habitants, située entre Toulon et Marseille, longtemps associée à ces chantiers naval. Les acheteurs aisés la boudaient, regardaient plutôt du côté d'Aix-en-Provence ou achetaient sur la Côte d'Azur. Mais ça, c'était avant que cette ville de bord de mer ne change radicalement d'image. C'est simple, depuis quelques temps, on voit La Ciotat partout sur nos écrans. La nouvelle série quotidienne de TF1 diffusée depuis le début de la semaine a été tournée à La Ciotat. Série qui s'intitule « Tout pour la lumière ». Voilà, vous allez la voir dans la tête, également diffusée sur Netflix, Tout pour la lumière, c'est une série façon comédie musicale dont l'action se déroule dans une école de chant et de danse, c'est un peu le Undo Stress provençal et méditerranéen, pardon. Dès le générique, la série propose des plans aériens de folie sur la rade de La Ciotat. Il faut rappeler que La Ciotat fait partie du parc national des Calanques et du club des plus belles baies du monde. La chaîne TF1, encore elle, qui voue une passion à La Ciotat, a récemment consacré un reportage d'une heure à la ville intitulé On ira tous à La Ciotat. Et c'est justement le problème du moment, Ali. Tout le monde veut y aller et y vivre.
Allez, Jean-Laurent, on a compris, vous voulez faire de la pub pour votre département d'origine, les Bouches-du-Rhône. Mais en quoi ça concerne nos auditeurs de Vannes, de Toulouse ou de Sedan?
En fait, Ali, ce qui se passe à La Ciotat, on l'observe également ailleurs. Le boom de l'immobilier, l'augmentation du nombre de résidences secondaires, la transformation du paysage commercial, tout cela est bien palpable dans de nombreuses communes françaises. Il y a des petits La Ciotat en quelque sorte un peu partout sur le territoire français. On parle de gentrification, parfois de touristification pour qualifier ce cocktail entre une image qui change, des prix qui augmentent et une population nouvelle qui afflue. Le phénomène touche en particulier des zones ou des communes qui étaient jusqu'à présent un peu sous-cotées, en particulier les villes littorales. Autre illustration du phénomène avec Saint-Nazaire en Loire-Atlantique qui a vu sa cote augmenter de 37% en 5 ans et qui attire une clientèle qui n'a pas les moyens de viser la boule. Alors les agents immobiliers ont un terme pour cela, ils parlent de marché de report. Vous vouliez le centre-ville, vous aurez la banlieue, vous visiez la vue sur mer, vous aurez la commune située à 15 km de la plage, ce qu'on appelle aussi parfois la lutte des places. Alors ce qui est un peu dommage dans tout ça, Alice, c'est que j'ai pas acheté moi-même à la Ciotat quand il fallait. Je vais pas profiter de l'effet qu'aura cette chronique sur l'immobilier ciotadin pour faire une culbute, comme on dit. Mais vous savez, je ne fais pas ce métier pour l'argent. Et à propos d'argent, comme c'est déjà la fin de cette chronique et de cette première saison en votre compagnie, je voulais en profiter pour vous remercier chaleureusement, mon cher Ali, ainsi que toute l'équipe de Grand Bien Vous Fasse, qui m'a accompagné dans mes premiers pas de chroniqueur radio, m'a appris à rendre l'antenne à l'heure en respectant mon chrono de 3 minutes, le tout en musique.
Merci beaucoup Jean-Laurent Casselli pour cette saison de chronique. On peut évidemment vous retrouver sur votre site Maison Casselli. On peut vous lire avec Jérôme Fourquet. La France sous nos yeux, c'est un livre indispensable pour comprendre notre pays. Disponible chez Point. Merci Jean-Laurent.
Ali Rebéi. Grand Bien Vous Fasse.
Comment lutter efficacement contre les violences et incivilités routières? C'est notre thème ce matin, un sujet essentiel avant les grandes vacances.
Rouler à vélo peut être risqué. Incivilité, refus de priorité.
Bravo.
Comportement dangereux, infraction au code de la route, jusqu'à la collision.
Attention!
Ce cycliste parisien qui filme tous ses trajets a été victime d'un accident il y a 2 ans. Il roulait sur une piste cyclable quand une voiture lui coupe la route et tente de le faire tomber.
Oh mais putain, mais t'es un connard!
Alors qu'il relève son immatriculation, le conducteur sort de son véhicule et frappe violemment le cycliste avant de prendre la fuite. La vidéo est donnée aux policiers. Ce cycliste aujourd'hui attend toujours que son affaire soit jugée.
Ça fait plus de 2 ans que j'ai subi une agression avec un conducteur qui était vraiment dangereux, qui avait déjà un casier judiciaire lourd. J'ai l'impression que les conducteurs peuvent continuer en toute impunité à créer du danger envers les usagers les plus vulnérables.
Extrait d'Envoyé spécial en octobre 2024. Jean-Pascal Assailly, je rappelle que vous êtes psychologue. Pourquoi de gentils agneaux dans la vie se transforment-ils en loups fous furieux dès qu'ils sont au volant? Comment expliquer cette métamorphose, nervosité, impulsivité, agressivité, agression physique parfois? Près d'un conducteur sur 5 admet ne plus être vraiment le même quand il est au volant. Expliquez-nous un petit peu, Jean-Pascal Assailly, les ressorts profonds qui explique cette métamorphose.
Bon, alors rapidement, parce qu'on pourrait y consacrer toute l'émission. Voilà, bon. Il y a peut-être 3-4 grands facteurs qui peuvent être différents selon les conducteurs. Bon, le premier, c'est ce qui est devenu la voiture, qui est devenue une seconde maison, qui nous coupe beaucoup plus du monde que la 2 chevaux de nos grands-parents. Et donc, si vous voulez, ça c'est un peu le même phénomène que les réseaux sociaux. L'anonymat favorise l'agressivité. Les gens se permettent des choses sur les réseaux sociaux qui ne seraient pas si vous étiez en face d'eux. C'est pareil. Les gens dans la voiture se permettent des choses en essayant de vous pousser qu'ils ne feraient pas sur le trottoir avec votre corps. Voilà, bon. Donc il y a cet aspect-là de bulle d'utérus où on isole les êtres humains. Dès qu'on isole les êtres humains les uns des autres, ça favorise la violence. Le deuxième grand facteur, c'est le rapport au temps totalement pathologique des Français aujourd'hui par rapport... pathologique, ce que je veux dire par là, c'est paradoxal. C'est-à-dire que par rapport à nos grands-parents, on a 10 fois plus de temps qu'eux, en fait, dans notre vie. Mais on n'arrête pas de dire qu'on manque 10 fois plus de temps qu'eux. Voilà, bon, donc il y a quelque part quelque chose qui ne doit pas coller. Voilà. Et voyez bien que quand l'automobiliste qui a écrasé le cycliste dit « Bah oui, bah, j'étais en retard, j'accompagnais ma fille. » Voilà. Donc la vie est comme ça, c'est que les gens sont perpétuellement en retard, perpétuellement pressés, toujours en retard de quelque chose. Donc là, il y a quelque chose à... Il faudrait travailler sur ce rapport au temps. Je me rappelle que Christophe André, qui est très dans la relaxation, méditation, disait qu'il faudrait que Quand on met la clé dans le démarreur, il faudrait que chacun de nous fasse deux minutes de relaxation avant de pour évacuer un peu.
Justement, hein. Qu'est-ce que vous conseillez concrètement pour justement diminuer cette nervosité, cette agressivité? J'ai encore vu, il y a deux jours, un taxi qui est sorti de sa voiture, violent, criant, gueulant sur un automobiliste derrière lui, prêt à en découdre physiquement. Qu'est-ce que vous conseillez pour justement limiter au maximum cette... Évidemment, c'est un travail de longue haleine, Jean-Pascal Assailly, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour justement faire baisser la pression, là, à l'approche des grandes vacances et des grandes transhumances sur les routes?
La sécurité routière, c'est toujours une dame qui a au moins deux jambes. Hein. Il y a, enfin, je veux dire, la jambe éducation et la jambe contrôle sanction. Donc, il va falloir. C'est évident que sur tous les problèmes qu'on a abordés dans cette émission, il faut absolument faire les deux. Bon, si vous voulez, bon, par exemple, si on prend l'exemple du vélo là dont on parlait tout à l'heure, bon, bah, il y a eu un plan vélo et donc on avait évalué pour la sécurité routière le savoir rouler, parce que en fait, si vous voulez, dans les années 50, les enfants parisiens quand ils étaient tués principalement comme piétons, voilà, et parce qu'on allait à pied à l'école. Aujourd'hui, on a énormément diminué la mortalité piétonne des enfants, mais quand ils sont tués dans les voitures parce qu'on les covoiture en permanence. Du coup, on dit la pollution, le climat, vous voyez bien qu'on veut décourager l'usage de la voiture. Donc, c'est vrai que les Anglais et les Danois ont toujours beaucoup plus, résisté à ça, au fait de transformer les enfants que toujours en passagers de voiture. Donc, dès que vous augmentez la mobilité vélo, forcément, vous avez une exposition au risque un peu plus importante, vous commencez à avoir un peu plus de blessés ou de tués. Mais c'est un travail à faire. C'est-à-dire qu'on voit bien que si plus il y a de cyclistes dans un univers, et plus ça va améliorer le système, parce qu'ils deviennent une partie plus importante. Ils peuvent avoir un effet de pacification au bout d'un moment. Simplement...
Pas toujours, je suis désolé, il y a aussi une guerre. Moi, je le vois en tant que piéton à Paris. Le nombre de cyclistes qui ne respectent pas les feux rouges, les stops, c'est quand même... Bah, je voudrais pas faire de généralité de café du commerce. Florence Guillaume, vous êtes... délégué interministériel à la sécurité routière, mais ce sont des constats qu'on fait tous quand on est piéton, souvent même, les cyclistes ne respectent pas toujours le code de la route. Florence Guillaume.
Oui, alors après, c'est vrai qu'il faut faire attention aux généralités, ou en tout cas, à chaque fois qu'on aborde, par exemple, la question des cyclistes, aussi aborder celle des automobilistes, parce qu'il y a aussi, déplorer que les cyclistes soient pas assez respectueux, mais il faut pas oublier aussi que les automobilistes ne sont pas assez attentifs. Alors là encore, pas tous, puisque je pense que naturellement, aucun automobiliste a envie de renverser un cycliste, mais c'est la question de l'attention à l'autre, en fait.
Bernadette Moreau, je rappelle que vous êtes la déléguée générale de la Fondation Vinci Autoroute. Vous publiez le 15e baromètre de la conduite responsable. C'est un baromètre réalisé auprès de 12 403 personnes dans 11 pays européens. Une vaste enquête qui dresse un état des lieux des comportements au volant. Un chiffre éloquent, 87% des conducteurs français déclarent avoir peur du comportement agressif des autres conducteurs. 63% admettent injurier d'autres conducteurs. 54% klaxonnent de façon intempestive les conducteurs qui les énervent et 30% collent délibérément le véhicule d'un conducteur qui les énerve.
Oui, c'est la parfaite illustration du fait que, effectivement, tout le monde a peur des autres, mais beaucoup contribuent à cette peur par leur propre comportement. Et que donc, si chacun... baisse la pression, a une conduite plus apaisée, respecte les règles du code de la route, ça devrait profiter à tous.
Florence Guillaume.
Oui, c'est respect mutuel. Peut-être quand même, on a malheureusement, et c'est terrible, eu ces accidents vraiment dramatiques, je pense qu'ils font réagir. Et là-dessus, je vais peut-être rebondir aussi pour parler du rapport justement, de la mission qui avait été diligentée par le gouvernement après cet homicide complètement, j'allais presque dire surréaliste, s'il n'était pas aussi dramatique, d'un cycliste à Paris, et qui vise justement à décortiquer ces mécanismes de partage de la route et à voir comment on peut progresser. Et on ne pourra pas progresser seulement en disant il faut faire ceci, il faut faire cela, et ou par bloc. On a vraiment besoin de mieux faire interagir les blocs, de mieux faire interagir l'automobiliste par rapport au cycliste, de travailler sur la question de l'empathie, de ne pas oublier les piétons. Les piétons se sentent aujourd'hui un petit parfois, on entend aussi, et les associations piétons m'étonne, nous reviennent beaucoup sur le fait qu'elles ont aussi envie de rappeler qu'elles sont vulnérables, qu'elles n'entendent pas forcément toujours la trottinette électrique sur le trottoir, de toute façon la trottinette électrique qui n'a pas vocation à être sur le trottoir.
Ça, faut le rappeler, excusez-moi, mais...
Sauf si vous êtes un enfant de moins de 8 ans et c'est sur une trottinette non électrique, mais enfin ça...
Très souvent des trottinettes électriques sur les trottoirs.
Oui, et il faut vraiment, c'est cette conscience de l'autre et c'est le développement de l'empathie, et c'est pour ça que dans l'apprentissage des différents modes, j'irai à la fois automobile, mais aussi cycliste, le savoir rouler à vélo qu'on fait maintenant pour les enfants à l'école, il faut commencer à intégrer tout ça, et intégrer tout simplement que le respect de la règle, c'est le respect des autres, et c'est la condition en fait que chacun roule en sérénité.
Bernadette Moreau.
Oui, oui, tout à fait, c'est exactement ça. En fait, le respect de la règle, c'est l'attention aux autres, et c'est ce qui prime, en fait. Faire attention aux autres, c'est prendre des décisions pour protéger les autres, donc ne pas prendre le volant en état d'ébriété, sans avoir bien sûr pris des drogues, et sans prendre son téléphone. Enfin, voilà, tous ces comportements-là sont à proscrire quand on prend le volant. On a oublié trop que prendre le volant, c'est une activité à part entière, et qu'on ne peut pas faire autre chose.
Et si vous partez en retard, vous arriverez en retard. Une fois que vous intégrez ça dans votre logiciel, que de toute façon vous êtes en retard, l'acceptation du fait d'être en retard va faire que vous allez retrouver un peu de sérénité sur la route plutôt qu'essayer à tout prix de rattraper un retard qui ne sera pas rattrapé.
Isabelle Aleno.
Oui, je voulais juste dire, je pense qu'il y a un gros travail d'éducation, parce que malheureusement, je pense qu'on se rend tous compte que l'amende ou en tout cas c'est bien que ça existe, mais c'est vrai que l'éducation est quand même primordiale pour arriver à faire changer les mentalités, les comportements sur la route, hein.
Je renvoie au guide du bon conducteur sur le site de la sécurité routière. Vraiment, compulsez-le. Allez sur le site de la sécurité routière. Il est très bien fait, ce guide. Juste un mot quand même sur cette loi sur l'infraction d'homicide routier. Donc, ça sera discuté
1er juillet
au Sénat en seconde lecture. Ce chef d'accusation sera retenu lorsque la conduite est délibérément à risque et que des circonstances aggravantes s'appliquent comme la consommation de stupéfiants et ou de psychotropes, le défaut de permis, le dépassement de la vitesse de plus de 30 km/h, l'usage du téléphone au volant, le refus d'obtempérer, le délit de fuite ou encore le rodéo urbain. L'auteur d'une de ces circonstances aggravantes sera passible, comme aujourd'hui, de 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. Cette peine sera élevée à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € au-delà de deux circonstances aggravantes, comme le stipule déjà la loi actuelle sur l'homicide involontaire. Florence Guillaume, elle va passer cette loi ?
Alors, je ne peux pas préjuger d'un vote,
mais je crois que
le sujet a vraiment, en plus il a maturé depuis un an, beaucoup d'explications ont été données, beaucoup d'associations se sont aussi engagées en sa faveur, je crois que c'est une vraie évolution, j'irais, qui est très au-delà de la sémantique, qui est une évolution aussi de conscience.
C'est comme pour les féminicides. On va parler maintenant d'homicide routier avec tout ce que ça implique. Donc merci effectivement à toutes les associations qui se battent pour cet homicide routier comme la vôtre, Isabelle Aleno. Un dernier mot, le mot du psychologue Jean-Pascal Assailly pour à l'approche de ces vacances d'été pour une conduite sereine sur les routes.
C'est effectivement lutter contre ce que dans notre jargon on appelle l'optimisme comparatif. Beaucoup de conducteurs pensent, que l'accident va plutôt tomber sur la tête du voisin. Et pourquoi ils pensent ça? C'est parce qu'ils pensent qu'ils conduisent un peu mieux que le voisin et qu'ils pourront plus s'échapper ou se permettre une petite infraction. C'est pour ça que les hommes pensent qu'ils peuvent se permettre plus d'infractions que les femmes, parce qu'ils disent tout ça est complètement illusoire. Voilà, c'est une illusion du regard sur soi. Et c'est pour ça que quand on a fait rentrer, au début de la création des stages de sensibilisation, les psychologues, on a fait rentrer les psychologues dans ce travail, on les a fait rentrer sur le mot « l'autre, c'est moi ». C'est toujours l'autre qui est dangereux, c'est toujours l'autre l'alcoolique, c'est toujours l'autre... Et c'est un travail que chacun de nous doit faire sur soi.
Merci beaucoup Bernadette Moreau de la Fondation Vinci Autoroute. Merci Florence Guillaume, déléguée interministérielle à la sécurité routière. Merci beaucoup Jean-Pascal Assailly. Je recommande Homo Automobilis ou l'humanité routière. Et merci Isabelle Aleno. On peut aller sur le site de votre association,
Association Antoine Aleno.
Association Antoine Aleno.
Grand bien vous fasse. Un podcast France Inter.